Pasteur Ronald.
Bonjour, frères et sœurs.
Nous allons parler du corps aujourd'hui. Qui aime l'exercice ici, là? À part moi. Non, pas à part moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'exercice, là. Mais est-ce que vous aimez vous mettre en forme? Oui? On dirait que l'église ou les dimanches ou d'autres réunions, c'est comme le gymnase spirituel pour nous. Hein? Parce que nous sommes quoi? Membres d'un seul corps. Donc, on va s'exercer ici à l'église avec nos services. Quelques-uns ce sont des yeux, comme on a chanté. Quelques-uns, ce sont des oreilles. Quelques-uns, ce sont des ventres. Non, des jambes, des pieds. Et donc, nous sommes tous en Jésus-Christ, un seul même corps. Et nous allons parler aujourd'hui. La semaine passée, nous avons vu... Nous avons touché déjà le chapitre 12 des Romains. Et nous sommes dans la dernière section de la lettre, la partie pratique, donc l'application de l'enseignement doctrinal dans la vie de tous les jours. Donc on a vu plusieurs fois que nous avons été justifiés par la foi. Et donc on a étudié la semaine passée le verset 1 et 2 de Romains 12. Déjà, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans Romains, chapitre 12, nous avons lu la semaine passée dans les deux premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, après tout ce qui a été dit en ce qui concerne la grâce, la justification, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera votre culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc les privilèges de la grâce de Dieu doivent se traduire, comme on a vu, comme on vient de lire, par une vie consacrée à Dieu. Une vie transformée, il dit, par le renouvellement de l'intelligence, de notre intelligence. Donc ce renouvellement concerne tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire, et on peut lire plus loin dans les autres chapitres, en ce qui concerne l'apôtre Paul touche ces domaines-là, dans l'Église, en dehors de l'Église aussi, on va le voir, et avec les autorités même. Donc on va étudier tout cela dans les prochains chapitres. Mais ces renouvellements concernent tous les domaines de notre vie. Nous étudions aujourd'hui le premier aspect. Et d'ailleurs, la semaine prochaine aussi, on va continuer avec la vie du chrétien dans l'Église. Donc dans notre consécration, de notre consécration à Dieu, découlent nos relations avec nos frères et sœurs. C'est ce qu'on parle des fois de notre relation verticale avec Dieu. Notre consécration à Dieu, ça va découler notre relation avec les autres. Mais le plus important, c'est vraiment notre relation avec Dieu, notre consécration. C'est de la vie du chrétien dans l'Église que l'apôtre Paul nous parle dans les prochains chapitres et dans le prochain verset d'ailleurs. Comme on lit dans le verset qu'on va étudier aujourd'hui, il dit « Nous formons un seul corps en Christ. Nous formons un seul corps en Christ. » Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, on va étudier chapitre 12, versets 3 à 8. C'est bien? Donc, chapitre 12, Romains 12, 3 à 8. Lisons. « Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Chacun selon la mesure des fois que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons quoi? Un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement et celui qui exerce la miséricorde avec joie. Amen. Donc, tous ces 6 versets que nous allons étudier dans Romains, chapitre 12, versets 3 à 8. Donc, si nous sommes consacrés à Dieu, donc la démonstration première sera notre consécration aux autres, c'est-à-dire à nos frères, envers nos frères et sœurs. Cela se manifeste en 3 aspects importants. Donc, on va diviser ces 6 versets, c'est ça? En 3 aspects importants qui touchent la vie d'Église. Donc, le verset 3, et je vais le lire littéralement, ces 3 aspects. Nous ne devons pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables. Comme 2e point, nous sommes tous membres les uns les autres. Et le dernier point, nous avons des dons différents. Autrement dit, 3 choses à retenir. L'humilité, l'interdépendance dans le corps de Christ et le service mutuel par nos dons. Cela me fait penser, au mariage. Hein. Quand la vie est belle quand on se fréquente. Mais là, une fois qu'on a pris la décision de nous marier, là, on se trouve à user beaucoup d'humilité. C'est vrai pour ceux qui sont mariés, et beaucoup d'humilité des fois dans le mariage. Des fois, il faut céder. Il y en a qui disent oui, pas ici et là. Et l'interdépendance aussi, nous sommes un maintenant, c'est ça? Quand on est marié avec notre femme, et aussi on se sert, on se complémente, on est différent. Nous sommes différents. Le couple est différent, très différent même. Dans mon cas, en tout cas, ma femme a beaucoup de patience envers moi. Je suis très impatient. Donc, il faut beaucoup de patience pour elle. Et, donc, ça me fait penser à ça. Et, savoir vivre, et c'est pour toute la vie. Le mariage est pour toute la vie, comme dit la parole de Dieu. Donc, il faut vraiment user des patience, humilité. Et c'est la même chose dans le corps du Christ. Nous sommes tous frères et sœurs, membres les uns les autres, qu'on va voir tantôt. Mais la première chose que l'apôtre Paul dit en ce qui concerne l'Église, il dit « Nous ne devons pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables. » Il dit « Par la grâce qui m'a été donnée. » Il mentionne ça. « J'ai dit à chacun d'entre vous, il dit, mais d'être raisonnable pour avoir la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu là, départie selon le verset 3. L'exhortation de Paul est selon la grâce qui lui avait été accordée. Il mentionne toujours l'humilité de Paul, de l'apôtre Paul, quand il dit « par la grâce qui m'a été accordée ». Il parle avec l'autorité d'un apôtre, mais sans oublier ce que le Seigneur a fait pour lui. Vous vous rappelez qu'est-ce que le Seigneur a fait pour lui? Le chemin à Damas. Oui, vraiment, là, il persécutait l'Église. Pourtant, Dieu a pardonné tout ça à Paul. Il l'a utilisé pour son œuvre. Et Paul dit, c'est par grâce que j'ai cet apostolat, ce ministère. Donc, dans la famille de Dieu, l'attitude est base, il me semble, dans ce contexte, dans ce verset, qui convient à tout, c'est l'humilité. Le proverbe 18:12 dit, avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Tout cœur hautain est un horreur à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Tout cœur hautain. De nombreux péchés sont conséquences directes de l'orgueil. On peut mentionner plusieurs, la jalousie, l'amertume, le conflit, la tromperie, l'hypocrisie, la calomnie, l'orgueil dans l'Église, il fait des dégâts et considérables. Et Paul dit, n'ayez pas une opinion, si on paraphrase, c'est ce qu'il dit, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute
qu'il ne faut. Quand on se croit plus grand que les autres, c'est là qu'il commence les problèmes. Nous avons été transformés dans notre intelligence, dit l'apôtre Paul. Donc ceci doit d'abord se manifester dans une juste vision de nous-mêmes. Nous ne devons pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables. Paul souligne que l'orgueil humain est mauvais, en partie parce que les talents naturels et le don spirituel viennent de Dieu. Et pourquoi donc il touche ce sujet-là de ne pas être orgueilleux, de ne pas se croire au-dessus des autres? On l'a vu dans le chapitre 11-18, il dit « Ne te glorifie pas aux dépens des branches », quand il parle des païens. « Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. » Plus loin dans le verset 20 aussi, « N'aie pas des pensées hautaines, mais de la crainte », dit l'apôtre Paul. Et il dit dans 2 Corinthiens aussi que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui recommande lui-même et est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. L'apôtre Paul nous appelle, il dit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça fait toute la différence. La gloire est pour Dieu, pas pour nous, pas pour les hommes. L'orgueil qui nous fait croire à notre indépendance, quand on laisse l'orgueil prendre la place, on se croit indépendant. Et des fois, c'est par rapport à l'Église même. Cette attitude n'a rien à voir avec la foi. Elle est même nuisible pour le peuple de Dieu. Donc le chrétien qui s'imagine qu'il est capable de fonctionner seul et sans Église, oublie que Christ est mort justement pour former un corps. Et que nous avons été baptisés par l'Esprit Saint, comme dit l'apôtre Paul, pour former ce même corps. Chacun a besoin de son frère et sa sœur pour avancer dans la transformation à laquelle Dieu nous appelle. Nous avons besoin les uns les autres. Malgré nos caractères, malgré notre nationalité, malgré notre tempérament, nous avons besoin les uns les autres. Paul ajoute que nous devons avoir de la modération. Ni nous vanter trop, ni nous diminuer non plus. Être, en réalité, il dit, être modeste. Si quelqu'un se pense être très important, il ne pourra rien apprendre aux autres. Et si quelqu'un se pense sans valeur, il oublie que Jésus a donné sa vie pour lui. C'est précieux aux yeux de Dieu. On est précieux aux yeux de Dieu. Il s'agit de trouver une image qui soit juste devant Dieu. Et Paul le dit, selon la mesure de foi départie à chacun. C'est ce qu'il dit, selon la mesure de foi. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup d'interprétations par rapport à ce que Paul dit, de la mesure de foi. De quoi il parle, cette mesure de foi? Est-ce que Dieu donnera une certaine dose de foi et qui permettra aux certains d'être plus modérés que d'autres? Je crois qu'il s'agit plutôt de notre foi commune, et de la foi que nous partageons, nous tous. La mesure unique, c'est la foi, dans le sens de pouvoir se mesurer par le même standard, la mesure de foi que Dieu nous a donnée à tous. Je crois que aussi ça a un rapport avec ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, 13. Il dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Pas une petite portion de l'esprit. Pour moi, un petit peu, l'autre, un tiers, deux tiers, non. C'est vraiment par un seul esprit. Pour former quoi? Un seul corps. Donc, le verset 3 que nous venons de lire, on pourrait le résumer, que chacun fasse attention de ne pas croire qu'il se suffit à lui-même. Au contraire, que chacun se voit comme un membre de la famille de Dieu, chacun avec la fonction particulière que Dieu lui a donnée. C'est comme dans une famille. Dans chaque famille, nous avons nos forces et nos faiblesses. Hier, par exemple, on était en train de faire la décoration de Noël. Qui a déjà fait cette décoration de Noël? Yeah, yeah, on est pas mal à l'avance. Ah oui, merci ma soeur. Donc, on était en train, puis il y en a qui, dans nos familles, ont vraiment la capacité ou le savoir faire ça. Moi, je ne suis pas bon là-dedans. J'aime les voir, mais pas les faire, les décorer. Et chacun de nous, dans une famille, a ses forces et aussi a ses faiblesses. Et donc, on doit vivre ensemble avec ça, sans mépriser l'autre. Parce que, oui, j'ai des faiblesses, mais j'ai aussi des forces. Comme, la semaine prochaine, je donnerai la liste, mais on a quand même, tous ont des forces et... Ah, je suis protecteur, mais des fois, c'est une faiblesse. Mes filles disent des fois, il est 10 heures du soir, et j'ai dit, bon, ben à quelle heure tu viens? C'est le temps, t'as plus de temps, là, sinon... Donc, oui, je suis protecteur, mais des fois, ça peut nuire aussi, trop protecteur. Donc, on a tous, frères et sœurs, des bons côtés, des forces dans nos familles, et on a aussi des faiblesses. Et on doit vivre, on doit apprendre à vivre ensemble. Et dans le cas de l'Église, parce que nous formons un seul corps en Christ, membres les uns les autres. D'ailleurs, les uns les autres, quand quelqu'un a écrit un livre qui s'appelle Lula, les uns les autres, c'est là que, dans le chapitre 12, qui commence cette expression-là. Et on va voir dans la semaine prochaine, on va voir dans notre étude, qu'il y a quelques Lula qui s'en vient. Mais dans d'autres épîtres de l'apôtre Paul, on a dans notre cours des membres, on a plusieurs Lula. Hein. Je pense qu'on a une page et demie, Osé, des Lula, les uns les autres. Vous pouvez prendre le temps de le lire. Donc, nous formons un cœur en Christ. Versets 4 et 5, dans votre Bible. 4 et 5, comme deuxième point. L'apôtre Paul dit, « En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. » Nous sommes tous membres les uns les autres. Au premier siècle, on parlait souvent de la ville de Rome. Pourquoi cette expression-là que l'apôtre Paul utilise comme corps? Et dans la ville de Rome était appelée, en fait, était considérée comme le corps de l'Empire. Donc, l'analogie du corps sont nombreuses. L'apôtre Paul il mentionne plusieurs fois cette analogie. Et il se sert d'ailleurs dans plusieurs épîtres comme Éphésiens 4 ou surtout en Corinthiens 12 ou Colossiens 24 aussi, 1-24, quand il parle du corps de Christ qui est l'Église, il le dit clairement que le corps du Christ est l'Église. Nous sommes le corps du Christ. Par contre, Paul va au-delà de l'utilisation séculière. Et il se sert d'ailleurs de ce passage-là. Il utilise l'image du corps pour parler de la pluralité, la diversité, on vient de les lire dans le verset 6 à 8, l'unité, l'interdépendance des membres du corps de Christ. Donc, en ce qui concerne la pluralité des membres, nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Cela nous garde de l'égocentrisme. Et nous ne sommes pas seuls dans la relation avec Dieu. Nous sommes plusieurs frères et sœurs. Notre relation avec lui implique la relation avec nos frères et sœurs aussi. Nous avons tous un même père, plusieurs membres. On a aussi une diversité des membres. Tous n'ont pas la même fonction, dit Paul. Cela nous garde de la jalousie et du mépris de l'autre. Chacun a sa fonction dans le corps, dans l'Église. L'unité des membres. Nous formons un seul corps, comme dit. Cela nous garde division. Christ n'est pas divisé. Christ est un. Son corps est un. Donc, nous sommes tous unis en Christ. Et l'interdépendance des membres. Nous sommes tous membres les uns les autres. Nous sommes tous membres, mais en plus de ça, on est les membres les uns les autres. Cela nous garde des accroches à l'Église et à la communion fraternelle. L'expression est forte. Nous ne sommes pas simplement membres du corps, mais nous sommes membres les uns les autres. Si mon frère est dans la joie, je me réjouis avec lui. Amen. Si ma sœur pleure, je pleure avec elle aussi. Personne ne doit se sentir inutile ou être mis dans une piédestal. Dieu est glorifié quand chacun trouve sa place utile dans le corps du Christ. Vous savez, j'aime beaucoup la misère avec le français. Des fois, le français, c'est un peu contradictoire. On dit une lettre, mais c'est le B, le A, mais on dit une lettre. Je ne comprends pas. Des fois, mais l'espagnol, des fois, il y a des choses. Non, je pense que l'espagnol, c'est moins dur, en tous les cas. Mais je trouve des fois des difficultés avec le français. Mais c'est une belle langue. J'aime cette langue, le français. Des fois, là, dire quelque chose en français, pour être moins plus doux avec ma femme, je le dis en français. Parce qu'en espagnol, ça sent trop dur. Non, mais c'est vrai que c'est une belle langue. Mais c'est ce que j'aime là, dans ces cas-là, que le mot « corps » en français, c'est bizarre. Quelqu'un va m'expliquer, peut-être M. Frey va m'expliquer à la fin. « Corps » en « s » à la fin. Pourtant, c'est un mot hein, qui nous dit quelque chose de singulier, un corps, non? Mais un S à la fin, j'aime beaucoup ça. Parce que le mot corps de Christ, c'est un S à la fin, on dirait pluriel. En tout cas, pour moi, un péruvien qui traduit un peu le français, corps, j'aime ça là, parce que c'est un mot en pluriel. Ça définit très bien l'Église. On est plusieurs membres et un seul corps, avec un S à la fin. Des différents arrière-plans. Des Français, comme on dit, un bon Québécois, des Ontariens, des Péruviens, de quoi d'autre? Guatémaltèques, Salvadoriens, pardon? Béninois, on a un peu mentionné plusieurs. Je pense qu'ici, dans l'Église, heureusement, on peut mentionner même 30 pays. C'est une richesse, arrière-plan différent, différents coutumes, différentes cultures aussi. Différentes couleurs. Je suis un peu moitié-moitié. Ni blanc, ni... je suis dans le bon... je suis vraiment, comment on dit, modéré. On va le dire. Différents tempéraments. C'est une blague, mes frères. Hein? Tempérament. Mais c'est important, vraiment, la communion fraternelle. Malgré nos différences, malgré notre arrière-plan, et nous avons besoin les uns les autres. Quand un membre manque, nous souffrons vraiment. Ou quelqu'un, mettons, est mis en discipline, ou quelqu'un qui est absent. Mettons, si je serai absent, ça fait mal au corps. Donc, le gros orteil n'est pas là. OK? Mais je parle de moi. Et c'est fou, là, parce que quand vous avez mal à une orteil, ou quand vous manquez d'un orteil, ça se voit, ça a l'air. Donc, ça a des... Et puis, pourtant, c'est un petit... c'est rien, mais ça affecte le corps. On peut remercier Dieu que notre corps, l'Église des Rosemont, est quand même en santé. Mais je dirais que si je poserais la question à l'Église des Rosemont étant au corps, comment ça va, l'Église des Rosemont? Ouais, ça va bien, mais il y a un bras que... j'ai un peu mal, ou j'ai une jambe qui... Parce que malheureusement, à cause de ce qu'on a vécu, ça fait 2 ans, je crois, il y en a plusieurs qui ne sont plus là. Puis ils nous manquent vraiment. Et mes frères et sœurs, si vous êtes là, peut-être en train de nous écouter, on s'est habitué beaucoup à YouTube, on s'est habitué beaucoup à l'écran, mais je vous exhorte vraiment dans l'amour... Venez, vous nous manquez. Il y a des chaises vides ici. Venez, vous êtes le corps de Christ. On doit apprendre à vivre ensemble. Comment nous allons apprendre à vivre ensemble si nous ne sommes pas ensemble? Donc, je nous exhorte, je nous encourage à venir remplir toutes ces chaises-là. Je pourrais en nommer des gens que ça fait longtemps que je ne vois pas. Et je m'en réjouis aussi que je vois des gens que ça fait longtemps que je ne les voyais pas, mais ils sont là maintenant. Et donc, ça veut dire que c'est en train de passer cette période-là de YouTube, l'ère YouTube. Ça a été bénéfique. Moi, je ne dis pas ça, que ça n'a pas été bénéfique. Mais ce n'est pas vraiment la communion fraternelle. C'était quelque chose d'urgence qu'on a pu monter. Mais frères et sœurs, j'espère vous voir, si vous entendez, si vous écoutez. Pas ceux qui écoutent de l'Afrique, là. Je sais qu'il y en a qui écoutent de l'Afrique. Vous pouvez rester en Afrique. Mais à tous ceux qui viennent à Rosemont, s'il vous plaît, faites l'effort de venir. Vous nous manquez. Nous sommes membres, tous les uns les autres, l'interdépendance. Mais, dit Paul dans le verset 6 à 8, on va lire du 6 à 8, mais, il dit, nous sommes vraiment membres, nous sommes différents, différentes fonctions, mais il dit, nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord à la foi, il dit. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, et celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Et encore, l'apôtre Paul mentionne, selon la grâce qui vous a été accordé? Non, il dit qu'il nous a été accordé. Il s'inclut lui-même. L'apôtre Paul ne constitue pas une exception à cette règle-là. Il parle toujours de son apostolat comme une grâce. Il parle de nous. Savoir que c'est une grâce de Dieu nous garde dans la reconnaissance. En réalité, servir, c'est un privilège. C'est une grâce de Dieu que de le servir. Savoir que c'est pas grâce nous garde aussi du piège de l'orgueil et nous rend humbles. Les dons, c'est un don de Dieu. C'est pas nous. Et Dieu, même Paul, des fois, il cite comme exemple la capacité vient de qui? Vient pas de moi. Il vient de. Pourtant, Paul était très instruit, mais toute sa capacité, tout ce qu'il enseigne, vient de Dieu. C'est pas à cause de Dieu. Jacques nous dit dans 17, tout don excellent et tout cadeau parfait vient de qui? Vient d'en haut, du Père des Lumières, il dit. Et nous lisons dans 1 Corinthiens 12, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il veut, selon sa volonté, pas selon notre volonté. On pourrait conclure ainsi qu'il a fait de même avec les dons. Il a placé des membres, mais aussi a donné des dons, si on peut dire. Quelqu'un a déjà mentionné que l'exercice des dons à l'Église, c'est le langage corporel du corps du Christ. C'est le langage corporel de l'Église, souvent même non-verbal. Paul nous présente 7 dons ici dans cette liste. Okay? Ce n'est pas une liste complète, ce n'est pas exhaustive, cette liste-là. Et d'ailleurs, il mentionne plusieurs autres dons dans Corinthiens aussi. Mais ces dons ont en commun le bien et l'édification du corps. C'est vraiment implicite ce que l'apôtre Paul enseigne ici. Jamais pour la gloire personnelle. Je crois que 1 Pierre 4 dit c'est plus clair en ce qui concerne les dons. Il dit, puisque chacun a reçu un don, au moins un don, vous avez reçu, frères et sœurs, nous avons reçu au moins un don par le Saint-Esprit. Un. Peut-être qu'il y en a qui ont plusieurs dons, mais au moins vous avez reçu un. Il dit, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce diverse. Encore là, mentionner la grâce de Dieu à cause de notre don. Je sais que ça existe plusieurs façons de découvrir nos dons. Il y en a qui remplissent des sondages. Il y en a qui essaient de découvrir son don. Je ne suis pas contre ça. Mais des fois, vous savez, avec les sondages, on dit, est-ce que je suis bon là-dessus? Oui, des fois, à cause de notre petit orgueil, des fois, on dit oui, 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 partout. Puis là, finalement, j'ai comme 10 dons. Mais ce n'est pas mauvais, je dis que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais, là. Mais, savez-vous que C'est pour ça que c'est important, le service à l'Église, parce que nos frères et sœurs sont souvent mieux placés pour discerner nos dons. C'est vrai? Dans différents domaines. Avez-vous déjà entendu un frère qui vous dit, « Mon frère, je pense que ton don, c'est ça. » Non? Oui? T'asseoir ici tous les dimanches. Non, c'est pas ça. C'est pas un don, ça. Mais peut-être vous avez déjà entendu ça. C'est l'Église qui voit. Quand on s'est réunis, les anciens, aujourd'hui, on s'est réunis aussi, on voit aussi, quand on parle des dons, des caractéristiques des frères pour le service. Vous vous rappelez dans Actes, quand ils ont choisi les 7 diacres, Étienne était là, c'est eux qui ont choisi parce qu'ils ont vu ça, le service de ces diacres-là. Ils les ont choisis, ils connaissaient déjà. Ils s'est démarqué des autres à cause de leur don. On voit aussi quand Paul il dit « établis des anciens à Tite, des anciens parmi eux ». Donc Tite devait connaître ces gens-là et voir leurs caractéristiques, leur force pour être des anciens. Donc Paul dresse une liste de 7 capacités spirituelles différentes. Avec chaque don, il dresse une exhortation pour un emploi correct de ce don. Donc la prophétie. On ne va pas passer longtemps avec ça, mais la prophétie, c'est-à-dire parler de la part de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. On peut lire la définition un peu de cette prophétie dans 1 Corinthiens 3, quand il compare au don des langues, quand il y avait ce conflit des dons des langues, là, Paul écrit aux Corinthiens, il dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il parle aux hommes, qu'est-ce qu'il fait, celui qui prophétise? Il parle aux hommes. Quoi d'autre? Les édifie, les exhorte, les console. Celui qui prophétise édifie l'Église, il dit. Des paroles d'édification. Je crois que personne aujourd'hui ne peut prétendre être un prophète dans le même sens que ceux qui ont, que Dieu a inspiré pour écrire sa parole. On voit une tendance dernièrement que des gens se prétendent être prophètes, ils se nomment des prophètes, pour prédire même l'avenir dans les églises. Donc faisons attention avec ça. Quand on entend des expressions « Dieu m'a dit » ou « j'ai eu un rêve », je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de faire ça, oui. Dieu des fois il a appelé, on peut le langage de mon frère nord-africain, il les a appelés avec des rêves des fois. Et il s'est manifesté à eux. Mais faisons attention avec ces expressions-là. Une chose que nous devons nous rappeler par rapport à ça. Rappelons-nous que les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient des événements à venir, c'est vrai, mais leur ministère en était d'abord d'avertissement. Ils avertissaient, exhortation, parfois très sévère, mais toujours dans le but d'édifier, avertir, et non d'attirer l'attention sur eux, comme des fois on le voit de nos jours. Cela encourage l'orgueil de ces gens-là. Donc faisons attention. Par contre, dans le texte, Paul y dit, dans le texte que nous étudions aujourd'hui, Paul rajoute quelque chose, qu'il le fasse, qu'il l'exerce en accord avec la foi. En accord avec la foi. Et dans ces expression-là, la foi, ce n'est pas la foi qu'on croit vraiment, la foi par laquelle on est venu à Jésus-Christ, quand on a parlé tantôt d'Éphésiens 2:8. Non, c'est vraiment, quand on parle ici de la foi, c'est le contenu de la foi chrétienne. La bonne doctrine, la norme, la parole de Dieu dans son ensemble. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire, que cela que soit, il y a d'autres qui traduisent selon l'analogie de la foi, le contenu de la foi. Selon la foi, selon que nous connaissons déjà. Ce qui a été révélé jusqu'à aujourd'hui. Et rappelons-nous encore, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Deuxième, le diaconat. D'autres traductions parlent aussi des ministères ou de services. Je crois que l'exercice de ces dons ne concerne pas uniquement son emploi officiel dans l'Église. Dans les cadres de l'Église, il peut être spontané aussi. Et, par exemple, dans les cadres des services que nous offrons dans la famille, à notre prochain, Bien entendu, chacun est appelé à servir. Nous tous, nous sommes appelés à servir, mais certains auront une capacité remarquable pour accomplir. Paul ajoute qu'on doit s'y donner pleinement avec un esprit de service. Avez-vous déjà remarqué ça? Des gens que moi, des fois, avant de faire quelque chose, d'offrir un service, des fois à mon frère, je pense des fois quelques secondes. Mais vous avez déjà remarqué ça, là? Hey, j'ai besoin de déménager. Hey, je peux aller t'aider. C'est quelque chose qui est déjà en lui, le service spontané. On l'a vécu maintenant avec ce qu'on a vécu dernièrement comme famille. On a vraiment vu là, waouh, des frères qui sont allés même nous apporter la nourriture à la maison. On a des tonnes de nourriture à la maison encore. Non, mais on a très bien mangé. Merci frères et sœurs. Je sais qu'il y a plusieurs qui nous ont aidés. Puis on voit vraiment ce don-là, ce service-là. Quand on était en train de préparer le service pour Marcella aussi, qu'est-ce que je peux faire? N'importe quoi. On peut faire. Waouh! Moi, des fois, je peux penser peut-être une demi-heure ou même plus, voir est-ce que je peux t'aider à faire ça. Mais c'est spontané des fois, et c'est ça le don, là, vraiment, le service. Toutes les exhortations suivantes sont construites de la même, sur le même modèle. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une simple exhortation et ne pas négliger ce don s'il possède ou pas, ou il faut comprendre que cette exhortation a exercé ce don selon une attitude particulière. Celle qui convient au service quand il dit et quand il répète. Quand il dit que celui qui exerce la prophétie, il doit être de la manière selon la foi. Mais toutes les exhortations que Paul dit dans ces versets-là, on dirait qu'il répète. Celui qui sert, qu'il le fasse de tout cœur. Il répète, on dirait, l'enseignement, mettons, l'Église a toujours besoin d'être enseignée par la parole de Dieu. Ceci sous différentes formes. Nous le voyons, je pense que nous le vivons dans notre Église. On s'efforce vraiment pour avoir des cours à 9h, en bas, les jeunes, et, pour qu'ils puissent être enseignés. L'Église a besoin d'être nourrie avec la parole de Dieu. Et ce don-là, il y a des hommes, des femmes qui sont capables de le faire. Ils se démarrent pour pouvoir enseigner avec une application pratique aussi. L'exhortation, des fois l'exhortation, ça fait comme un peu peur. C'est moi, le sens large, ça implique consoler aussi. Reprendre, encourager, stimuler même l'exhortation. Ceux qui pleurent ont besoin d'être consolés. Ceux qui sont démotivés aussi. Des fois, on ne trouve pas les paroles. Hein. Des fois, on veut consoler quelqu'un, puis ça vous est déjà arrivé, ça? On cherche nos mots hein, pour consoler, ou même la façon de le dire. On est des fois maladroit. Mais il y a des frères et sœurs qui, on dirait qu'ils l'ont l'affaire, comme on dit. Ils savent choisir les mots, les versets. Les mots d'exhortation, de consolation. Donner. Dieu accorde à certains la capacité d'avoir des ressources pour pouvoir donner. Et puis, on le voit, il y a beaucoup de gens qui donnent à l'Église avec, comment je peux dire ça là, avec libéralité. Ils ne le font pas pour se démarquer ou pour... chercher l'attention, la gloire. Il donne à Dieu parce que c'est Dieu qui donne. Présider, c'est-à-dire celui qui est en avant, c'est carrément dire celui qui est en avant. Présider, il conduit, anime, préside, dirige un groupe. C'est encore un autre don. Exercer la miséricorde, celui qui exerce. C'est donc auprès des personnes dans le besoin, les malades, les pauvres. Mais l'apôtre Paul, il dit qu'il le fasse avec joie.
Il ne va pas agir par devoir, il va le faire avec joie. Ces sept dons et d'autres sont répétés dans le Nouveau Testament, 100 fois par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre. Mais quel que soit l'épître on le lit ou la partie de la parole de Dieu on le lit, on doit exercer fidèlement ces dons-là, comme une responsabilité que Dieu, dans sa grâce, nous a donnée. C'est Dieu qui donne tout selon sa grâce, à chacun selon son bon plaisir. Donc attention avec l'orgueil. C'est vrai qu'on peut avoir des dons, mais attention avec l'orgueil. Nous formons un seul corps en Christ. Les différentes charges de l'Église que Dieu a établies, elles ont pour but d'édifier le corps. Tout le corps, toute l'Église, et non une gloire, chercher une gloire personnelle. Savez-vous, normalement, encore se fortifie. Hein? Et comme j'ai dit tantôt, nous sommes vraiment bénis ici à l'Église de Rosemont. Il y en a quelqu'un qui dit toujours, là, c'est la meilleure Église du monde. Et, je suis d'accord. Puis, on voit que nos frères et sœurs servent beaucoup ici à l'Église. On est vraiment bénis. Okay? Dieu nous donne cette grâce-là de pouvoir servir. C'est vrai que tantôt j'ai dit, il y en a qui nous manquent. Il y a des gens qui sont absents. Mais on prie pour que ça revienne. On prie pour que les gens puissent revenir. Mais comme j'ai dit, normalement le corps, quand il fait l'exercice, il se fortifie, il grandit. Il y en a pas qui grandit, hein, il y en a qui restent là, mais au moins il se fortifie. Et l'apôtre Paul parle justement de cette croissance, de façon spirituelle bien sûr, en ce qui concerne le corps de Christ. Et nous lisons dans Éphésiens 4, 16. De lui... Le corps tout entier bien ordonné et cohérent, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutient fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Le corps tout entier bien ordonné et cohérent. C'est Dieu qui le fait grandir dans la foi. J'ai parlé tantôt du témoignage de notre Église. Oui, on est vraiment fiers d'appartenir à l'Église des Rosemont, avec tous les services, frères et sœurs qui sont dans le service. Mais, attention avec l'orgueil. Et j'aime beaucoup les paroles que l'apôtre Paul utilise dans 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens, vous savez, c'est une église que l'apôtre Paul, je pense que l'apôtre Paul aimait toutes les églises qu'il avait fondées. En particulier, quand vous lisez 1 et 2 Thessaloniciens, on voit que le témoignage de l'apôtre Paul envers cette église est grand. Il loue le Seigneur pour ses frères et sœurs qui ont souffert, qui ont connu l'évangile au milieu de la persécution, au milieu des souffrances même. Et Paul le loue pour leur service rendu. Et dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, « Où reste, frère ? Nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. » Et d'ailleurs, il dit, « Vous le faites. Nous l'avons demandé de marcher selon Dieu et nous savons que vous le faites. » Mais j'aime la deuxième partie, il dit, « Eh bien, progressez encore. » Il dit, « Oui, il le loue. Oui, faites bien là, mais progressez encore. » Et plus tard, il dit, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruit par Dieu en vue de l'amour réciproque. Wow! Dire ça de l'Église, en ce qui concerne l'amour, je n'ai pas besoin de vous écrire, parce qu'on vous connaît déjà, on connaît déjà votre témoignage. Mais, plus tard, il dit, nous vous exhortons, frères, à progresser encore. Oui, c'était une église qui, où l'amour était vraiment grand, frères et sœurs, était remarquable. Mais l'apôtre Paul dit, nous vous exhortons avec amour, frères, progressez encore. Je pense que c'est encore pour nous aussi. C'est vrai, Dieu nous a fait grâce comme Église, mais progressons et croissons dans les aspects où nous devons développer encore plus les dons que Dieu nous a donnés par sa grâce en Jésus-Christ. Amen.